Coupé court et coupé net. Libre radio pour une saine séparation de l'homme et de son vie. Aragon, pour ainsi dire. Je restais avec cet appendice congestionné, terriblement ridicule. Libre radio, les couilles dans le bocal au fond du puits, le puits au fond du jardin.
Titi, bienvenue. C'est un grand plaisir également de te recevoir. Alors tu viens parce que toi, tu fais partie de la Slut Walk. On va en dire quelques mots. Tu vas présenter qu'est-ce que la Slut Walk. Et puis, on va parler certainement un petit peu de l'exposition, hein, comme on l'a ébauché tout à l'heure pendant l'entretien avec Melinda. Et puis également après, on voulait, parce que c'est vrai qu'à Libre Radio, lorsque l'on participe à des moments festifs, eh bien, on aime bien rappeler qu'est-ce que c'est que faire la fête. Et faire la fête, ça ne doit jamais, et notamment, être l'occasion d'un nihilisme ou de choses comme ça, et d'un alibi pour des attitudes que nous considérons comme inadéquates. Et il se trouve que dans nos événements, eh bien, on le mentionne immédiatement. Tu vois, typiquement, là, on a la lettre au voisin, et dans la lettre au voisin, le dernier paragraphe, si ma mémoire est bonne, c'est... Bon, déjà, il y a « Sentez-vous les bienvenus », également... Si des nuisances vous touchent, venez nous le dire et tout. Mais voilà, on termine, on commence toujours par les attitudes autoritaires, sexistes, polyphobes. Là, on a mis ce mot-là parce qu'on voulait être le plus à large spectre possible. Et agressives, eh bien, sont proscrites. On essaie d'être vraiment extrêmement attentif à ça parce qu'il se trouve que c'est un quartier où des fois, il y a des difficultés comme un petit peu partout, mais on sent qu'on peut le dépasser. Voilà, donc peut-être parlerons-nous également de ça, si tu le souhaites, mais on verra au cours de la discussion comment les choses viennent.
À fond.
On y va comme ça. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par parler un petit peu de la Slut Walk, qui, si je ne me trompe pas, a commencé... Alors, c'est un mouvement qui a cours un petit peu partout dans certains pays du monde, pas tous, mais quand même dans... Typiquement, né au Canada, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et en 2014, une Slut Walk suisse, ou genevoise même, a surgi.
Oui, moi, je suis très, très difficile avec les noms, du coup. Je ne vais pas dire qui l'a créé. Mais du coup, en fait, c'est suite à plein de mouvements qu'il y avait justement lancés au Canada. Et bien, il y a eu en fait cette idée de pouvoir recréer cette marche et d'avoir une marche où en fait, on peut revendiquer que notre corps nous appartient et qu'on en fait ce qu'on veut. Mmh. Et aussi d'avoir plus des revendications axées principalement sur les violences sexistes et sexuelles, comme en fait, un de mes slogans préférés, c'est « Ne nous dites pas comment nous comporter, dites-leur de ne pas nous violer », et qui, pour moi, a un sens pour moi, c'est tellement logique qu'on ne devrait pas le dire, mais en même temps, en fait, ça fait tellement du bien qu'il y ait des gens qui le disent, parce que c'est un peu la base. Genre, c'est pas à nous de nous comporter d'une certaine manière ou de nous habiller d'une certaine manière, mais c'est en fait aux personnes en face qui nous agressent et qui ont des comportements qui sont pas ok de justement en fait les changer.
Absolument. Et alors, effectivement, dans ce cadre-là, une exposition a cours actuellement à la bibliothèque féministe Filigrane.
Exactement.
Qui se trouve un petit peu plus haut au-dessus des grottes.
Oui.
Et qui s'appelle « Mais t'étais habillée comment ?» et qui, justement, mais tu vas nous la décrire.
Mais alors, du coup, cette exposition aussi, elle vient d'une artiste des États-Unis. Encore, moi, il est long. Mais justement, en fait, c'est parti de cette idée général où tout le monde en fait se dit en fait elle portait une mini jupe ou elle était alcoolisée, enfin il y a eu un peu des circonstances atténuantes et du coup on axe sur la victime au lieu de l'agresseur. Et du coup l'idée de cette exposition, c'est de montrer les différentes tenues et d'avoir un texte en fait qui accompagne, qui souvent décrit en fait l'acte ou qui décrit l'agression. Et du coup, c'est hyper fort comme exposition, moi, je trouve. Mmh. Parce que c'est un message assez fort de dire, des fois, il y a des nuisettes, des fois, il y a genre des robes de petites filles. Il y a vraiment, en fait, un spectre assez large. Il y a des pantalons, il y a tout. Mmh. Parce que, en fait, c'est pas du tout la tenue qui est prise en compte. Mmh. Et voilà.
Dans ta vie à toi, est-ce que ce sont des remarques que tu entends encore beaucoup, mais tu as vu, elle était habillée comme ça, elle l'a bien cherchée. typiquement, tu vois, ce genre de truc qu'on entend Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, selon toi, continue d'avoir cours un peu comme ça, ou on sent qu'il y a quand même une prise de conscience et puis que les gens commencent à dire non, mais arrêtons de. Enfin, c'est la double peine, là, ça suffit, quoi. La personne qui viole est la responsable, point barre. Quoi.
Ben, moi, j'ai l'impression que, en fait, ben, c'est aussi le truc dont je parlais tout à l'heure sur la culture du viol, c'est aussi cet aspect, genre un peu. C'est plus subtil que ça. Mm-hmm. C'est plus subtil de. Ah, mais t'as vu comment elle était habillée. Mm-hmm. Mais. Ça reste quand même là. Enfin, j'ai des discussions où il y a des gens qui disent « Ah, t'as vu, il s'est passé ce truc-là, c'est tellement horrible et tout, truc machin. » En même temps, en fait, c'était dans telle circonstance.
Ouais, ouais.
Et moi, je suis genre « Mais en fait, non.
Ouais. »
Mais en fait, non. Les circonstances, non. c'est pas les circonstances qui ont voilà. fait que
ouais.
c'est l'agresseur qui doit être pris en compte. Et même, en fait, de manière générale, quand on en parle, et ben en fait, on axe quand même vachement sur la victime et sur en fait ce qu'elle faisait et sur pourquoi et etc. Alors que en fait, nous, on devrait axer sur l'agresseur.
Bien sûr.
Que même s'il était alcoolisé, en fait, c'est pas une excuse. Même si en fait, elle lui a dit oui, puis après elle a dit non, ben en fait, c'est pas une excuse. Enfin, un peu. Ouais, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur toute la notion de consentement et sur toute l'idée et tout l'imaginaire un peu général qu'il y a autour des violences sexistes et sexuelles.
Ce que l'on pourrait nommer la culture du viol et qui est présente, comme tu l'as dit, à différents degrés et effectivement de manière des fois extrêmement sournoise.
Ouais. Moi, j'avais vu un TED Talk hyper intéressant en fait, justement, c'était une meuf qui disait comme ça, ben, en fait, les pubs, c'est hyper intéressant à analyser. Parce que ben, dans une pub, où je crois que c'était pour une banque, ou enfin, un truc un peu bidon comme ça, où il disait, ah, ça change plus vite d'avis que votre femme.
Oh, purée, ouais, bah ouais.
Et, bon, déjà, c'est pas super. Mais en fait, déjà, ça fait l'idée que, ben, en fait, les femmes, elles changent d'avis tout le temps.
Oui.
Et du coup, comme elles changent d'avis tout le temps, on ne sait pas vraiment ce qu'elles veulent. Et puis, comme on ne sait pas vraiment ce qu'elles veulent, quand elles disent oui, ben, en fait, ça peut vouloir dire non. Quand elles disent non, ben, en fait, ça veut dire oui. Que du coup, ben, en fait, on peut les violer. Et c'est hyper. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est hyper fort parce que ben,
c'est extrêmement brutal, ouais.
Ça part d'un truc qui a l'air de rien et en fait, ouais. ben, ça a une puissance énorme. Et
ça, c'est, ouais.
Ouais, ça, c'est la culture du viol.
C'est, absolument. Et c'est bien que c'est parfait que tu le décrives comme ça parce qu'effectivement, on a l'impression que finalement, nos rues sont constellées de petites choses qui n'auraient l'air de rien, mais qui, effectivement, à force de les voir et de les revoir, je dis ça parce qu'effectivement, quand on fait avec la radio qu'on suit les balades anti-pub, par exemple, on observe sur ces grands panneaux plein de petits slogans similaires à ce que tu viens de dire et qui, effectivement, au deuxième degré aussi, on les observe bien, en disent très long et très mal.
Mais c'est ce qui se passe aussi avec l'humour et puis que souvent moi ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens qui disent ah mais maintenant on peut plus rien dire. Je fais mais c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est juste que maintenant en fait les gens vous laissent pas dire n'importe quoi parce que en fait en disant n'importe quoi ben on arrive à faire n'importe quoi et
ouais.
C'est normal de pas laisser passer ça.
Ouais. Alors selon toi cette culture du viol par qui et comment est-elle véhiculée et comment est-ce qu'on en sort?
Ben, c'est une culture, du coup, ben, je sais pas, ça a des racines un peu partout. Tu peux les trouver ben, dans la pub, tu peux les retrouver en fait dans ta sphère familiale, tu peux. C'est un truc qui est partout, vraiment partout. Que à l'école, moi je travaille avec les enfants et puis j'ai travaillé un moment à l'école et qu'il y a plein de fois où, eh ben, je sais pas, les maîtresses ou les maîtres ou. Enfin, les gens qui accueillent les enfants, ils disent des choses qui sont tellement sexistes. Et moi, je suis tellement choquée parce que, je sais pas, il y avait un petit garçon une fois. Et puis, en fait, il jouait pas avec les garçons parce qu'il trouvait que, ben, je sais pas, ça l'intéressait pas spécialement. Et puis qu'il jouait plus avec les filles et puis que même, il avait des jouets de filles. Et puis, je sais pas, il y a eu une discussion hyper bizarre où elle disait « Ah mais oui, mais Charles, il est très délicat. Ah mais peut-être que... » En fait, ils ont commencé à se poser des questions sur son orientation. Et moi, sur son orientation sexuelle, j'entends, alors que c'est un enfant de 5 ans. Et moi, j'étais genre, mais qu'est-ce qu'il se passe
qu'est-ce qui nous prend de vouloir sexualiser tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, on a vu, même dans les classes avec les petits, on a fait des interviews avec des associations qui disent, mais vous interdisez les leggings à des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, qui sont aux antipodes de ce type de problème. Laissez-les dans le monde de l'enfance. Enfin, pourquoi on en est là? Comme tu as dit, c'est une culture, on a imprégné de tout ça, et puis on reproduit bêtement. On n'arrive pas à se sortir de ça.
En fait, j'ai l'impression que la question du genre, elle est hyper compliquée. Enfin, pour des personnes hétéronormées, elle est hyper compliquée. Parce que, ils ont grandi, ils ont vécu, et ils se sont inscrits, en fait, dans cette société hétéronormée, où la binarité, c'est hyper facile. Et puis, en fait, tu ranges des gens dans des cases, et puis c'est hyper facile. Et puis, en fait, les féministes, comme les gens à la Slut Walk, ou comme vous, et en fait vous arrivez et vous dites, mais en fait les cases c'est nul, mais en fait le genre binaire c'est nul, et puis du coup nous on veut faire des spectres, on veut pas faire des cases, et on veut genre ouvrir, et c'est hyper, je pense que ça fait hyper peur, et puis on a un peu envie de dire genre oui mais non, regardez, de remettre en question en fait tout le système dans lequel tu vis, et de te dire là, jusque là en fait j'ai faux, je pense que ça c'est hyper dur.
Cette remise en question-là.
C'est pas une raison.
Ouais. Alors, absolument. C'est pas une raison. Et d'ailleurs, on va dire, la Slut Walk fait toutes les années, justement, elle donne l'occasion de se sortir, justement, de cette espèce de binarité et d'automatisme de la pensée. Chaque année, il y a une grande marche, la marche des salopes.
Ouais, la marche annuelle.
Voilà. Et qui. C'est certainement un invité. Oui, pourrais-tu répondre? C'est un de nos invités qui va devoir nous dire quelque chose. Merci, moi, désolé, je suis obligé de le laisser pour les gens qui ne trouvent pas l'endroit. Donc, il y a la marche. Il y a ensuite, au terme de la marche, des témoignages qui ont cours. Et puis ensuite, il y a une soirée qui se fait en mixité choisie.
Oui.
Alors, voudrais-tu quand même, pour les personnes qui nous écoutent, Libre Radio, les gens qui nous écoutent, a priori, voilà. Mais quand même, rappelez peut-être qu'est-ce que ça désigne, que la binarité et la mixité choisie.
Déjà, la binarité, c'est le fait d'avoir une conception du genre qui s'inscrit comme homme ou femme, et rien d'autre.
Rien d'autre,
ouais. C'est d'où la binarité, qu'il n'y a que deux genres, et puis que du coup, soit t'es femme, soit t'es homme. Mmh. Et du coup, ça invisibilise totalement toutes les personnes trans, intersexes et non-binaires, de manière générale. Et ensuite, la mixité choisie ou non mixité, mm-hmm. En fait, c'est le fait de choisir à un moment donné de se retrouver dans un endroit sans une catégorie de personnes.
Mm-hmm. Absolument.
Largement, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. On va juste rappeler qu'effectivement, demain, nous recevrons les personnes d'Interaction, l'association des personnes intersexes en Suisse. Je dis ça parce qu'effectivement, là, ça a des conséquences que de se dire cette binarité. Et on l'observe de manière extrêmement brutale et concernant les personnes intersexes qui, justement, de zéro à plus tard, sont concrètement mutilées, oui. Opérées et par la suite encore... soigner, je mets évidemment plein de guillemets, mais parce que et après l'idée de maintenir cette sexualité, ce genre assigné qui est une horreur. Hein. Toi-même, à quel moment est-ce que tu as rejoint la Slut Walk et qu'est-ce qui t'a fait déclencher cette action, cet acte-là?
En 2015, moi j'ai fait ma première marche et c'était tellement bien. J'étais trop contente, j'étais genre trop stylé en fait des féministes qui s'assument et puis qui montrent en fait. Ouais, enfin c'est tout ce côté hyper démonstratif de pouvoir en fait avoir la parole, de pouvoir s'exprimer et dire en fait je suis là et puis je suis là comme je veux et puis en fait vous avez rien à dire parce que en fait c'est mon corps, c'est moi et puis pourquoi est-ce que vous décideriez là-dessus? Et du coup, ça, c'est hyper... Ouais, c'est déjà hyper libérateur d'avoir ça. Et ensuite, il y a une année et demie, j'ai rejoint le comité parce que j'avais envie d'avoir un engagement, en fait, plus approfondi au sein de la Slut Walk et puis, du coup, de pouvoir faire plus. Et du coup, j'ai rejoint le comité et puis c'est des gens trop fous que j'aime trop.
Alors, le fait de se retrouver permet de créer finalement un rapport de force. Et ça, j'imagine que c'est plaisant de se dire je ne suis pas de nouveau minorisé tout le temps, voire infantilisé ou des choses comme ça. Et dire, bah voilà, ici, on arrive et on passe et on y va, quoi.
Je me pose pas forcément la question de genre être minorisé ou pas, parce que en tant que vue comme meuf noire, et ben je suis un peu genre minorité bonjour. Mais en fait je sais pas si c'est seulement une question de rapport de force, mais c'est aussi une question de retrouver des gens qui ont les mêmes discours ou qui au bout de trois phrases ne disent pas un truc qui te fait genre non, je suis pas d'accord, vraiment pas du tout d'accord. Et puis, enfin, je sais pas.
Ouais. Non, absolument. Du coup, la notion d'intersectionnalité, elle est également très présente au sein de la structure et au sein de ces arguments.
Ouais.
D'accord.
C'est un peu mon mot préféré en réunion.
Alors, j'imagine. Voudrais-tu en dire quelques mots là également?
Ben, l'intersectionnalité, ça a été un terme qui a été mis au public par Kimberly Crenshaw, qui est une personne afro des États-Unis. Et en fait, c'est une universitaire qui définit ce terme pour parler de, en fait, justement, l'intersection entre le fait d'être femme et le fait d'être noire, qui fait que, ben, en fait, t'as des oppressions en tant que femme, mais t'as des oppressions en tant que noire, et puis que c'est pas un truc, en fait, qui s'ajoute, mais c'est un truc qui se mélange, et puis que, du coup, ça donne, en fait, des oppressions différentes,
mais qui sont encore plus enveloppantes, pourrait-on dire.
Mais c'est pas. Ouais, je sais pas si c'est plus enveloppant parce que je connais pas forcément en fait les autres oppressions que les personnes suivent. Mais par exemple, le fait d'être noire, et ben en fait, ça se mélange aussi avec des oppressions de classe souvent. Ouais. Et puis que du coup, enfin, je sais pas. Mais c'est le fait de pas justement voir ça comme des accumulations, mais comme des oppressions mélangées.
Ok.
Ça donne des expériences assez bizarres, comme un peu l'exotisation, où ben c'est un mélange de racisme et de sexisme, où ben en fait les gens ils sont là, oh moi j'aime trop les femmes noires, oh vous êtes tellement belles, et puis vous êtes des tigresses, et puis t'es genre non, s'il te plaît non. Et puis que, mais c'est ce truc bizarre de racisme, sexisme hyper malaisant.
Ok, alors dis-moi, la prochaine marche, est-ce qu'elle est déjà... On sait déjà à quel moment elle aura lieu en 2019 ou c'est un petit peu trop tôt encore?
Non, c'est trop tôt.
Mais voilà, on sait qu'elle aura a priori un peu la même forme que les précédentes. Donc une grande marche, des témoignages au bout de la marche et puis ensuite une soirée
Le soir.
En mixité choisie a priori.
Je pense qu'on garde plutôt la mixité parce que pour nous c'est un outil hyper important, surtout en fait au moment des fêtes, d'avoir en fait un lieu plus safe que genre un lieu avec des mecs cis. Ça veut pas dire que genre on n'a pas envie de faire la fête avec des mecs cis, mais c'est que surtout après en fait une marche qui parle des violences sexistes et sexuelles, que on sait que la plupart des agressions en fait sont faites par des mecs cis blancs. Enfin, d'avoir en fait un lieu où ben cette population n'est pas là, et ben ça enlève un peu de l'oppression. Ça veut pas dire qu'il y a pas des oppressions, parce que ben en fait il existe toujours plein d'autres oppressions, mais ça allège d'une certaine façon.
D'accord. On l'a pas encore dit. Le site de la Slow Talk et de quoi aurait besoin la Slow Talk? De personnes qui vous rejoignent, de lieux qui vous disent venez vous présenter ou de quoi? D'argent peut-être? Aussi,
je pense pas être la personne la plus qualifiée pour définir de ce dont on aurait besoin. D'accord. Je sais que le site il est en travaux un peu, que du coup s'il y a des gens qui sont motivés pour nous aider à former le site et tout, c'est cool. S'il y a des gens hyper motivés pour rejoindre les rangs de la Sotwalk, c'est super cool aussi. Parce que c'est toujours cool d'avoir plus de gens, et puis ça permet aussi en fait de décharger les personnes du comité. Enfin, voilà. Et sinon, Sinon, ouais, je sais pas. Ouais. Si vous voulez nous donner de la thune, c'est cool.
C'est bien aussi. Comment est-ce qu'on vous joint, du coup, le site actuellement est en construction, donc il y a une page Facebook.
Oui, bah, okay. Notre page Facebook, il y a d'ailleurs sur la page Facebook les jeudis misandres. On fait des plats de misandres. Ils sont vachement drôles.
C'est extrêmement drôle. À chaque fois, je lis les petites annonces. C'est extrêmement, extrêmement drôle, effectivement.
Et puis,
donc, c'est misandre pour de vrai. Hein. Les petites remarques, je dirais, c'est excellent.
Mais du coup, on relaie aussi beaucoup des informations de gens. En fait, on trouve importantes ou qui nous touchent aussi, et puis qu'on trouve important de relayer. Et puis, il y a aussi notre compte Instagram qui est super bien tenu, que vous pouvez aller jeter un œil aussi.
Ok, ok. Voilà. Ah, ça, je t'ai pas. Ok, très bien. Alors, si. Hello. Si tu es d'accord, Titi, nous pourrions parler justement. Parce que tu as émis le mot lieu C, justement. Alors. Lorsque l'on fait un petit peu des fêtes, eh bien, c'est effectivement un peu compliqué. Nous, on a décidé de faire justement ce moment où on voulait un petit peu parler des stratégies de comment faire la fête parce que nous avons été confrontés à des attitudes pour le moins déplacées, non adéquates clairement ici, qu'on a dû éloigner des personnes qui justement se permettaient de passer des fesses, sous couvert de dire c'est la fête ou c'est l'alcool ou que sais-je, d'agir de manière vraiment non adéquate. Au sein de la structure, qu'est-ce que ça, c'est un argument que vous abordez, le fait de dire, qu'est-ce qu'on fait si on veut sortir comme ça, en plein milieu, aller à un concert ou un truc comme ça, est-ce qu'on s'organise par rapport à ça? On avait également parlé il y a la dernière fois qu'on avait fait cet exercice-là de cheminement, compliqué, où des personnes, justement des femmes, disaient mais pour nous le cheminement c'est une stratégie que l'on prépare avec on va emprunter des grandes artères bien éclairées plutôt que d'autres espaces, mais tout ça finissait par devenir quelque chose d'extrêmement contraignant et de lourd finalement, de se dire il faut se préparer, non seulement on va faire la fête, mais pour faire la fête il faut passer par un moment où on prépare un voyage aller, un voyage retour, et puis même un espace sur la fête ou en tout cas des ressources pour être protégé si jamais.
Ben, je sais qu'il y a des cours d'autodéfense qui se font sur Genève, et puis qu'il y a une demande de la Stratou qui en fait, et puis que c'est hyper cool parce que du coup, en fait, tu peux te défendre toi-même, et puis du coup, ça c'est déjà un super outil. Mais déjà, j'ai l'impression que dans ces discussions-là, ce n'est pas forcément des discussions que j'ai eues à la Slut Walk, mais que j'ai eues avec des gens de la Slut Walk et puis des gens d'autres personnes militantes, que en fait, on développe chacune nos stratégies. On est là, moi je vais sortir en groupe, parce qu'en fait, en groupe, c'est vachement plus difficile de nous attaquer. Ou je vais aller que dans des lieux où je connais les gens. Comme ça, je sais qu'en fait, il m'arrive des trucs, et il y aura des gens qui vont réagir. On développe un peu. Je dis ça d'un côté individuel, on développe chacune nos stratégies. Et en parallèle, je dirais, dans l'organisation, dans les faits que j'ai pu être dans l'organisation ou de la Slut Walk ou autre. Il y a un truc qui se développe de un peu team bienveillance ou des équipes qui décident en fait de veiller à ce que la soirée elle se passe bien, que s'il y a quelqu'un qui est relou, il y a cette team qui le gère au lieu que ce soit en fait à la personne d'arrêter de faire la fête et de devoir gérer cette personne.
Ouais.
Et du coup, moi je trouve que c'est une super initiative parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Par rapport à ça, il y a beaucoup de réflexions posées sur ça, de comment en fait gérer ces personnes-là en fait. Et moi, je salue.
Absolument. On l'a vu apparaître d'ailleurs les teams bienveillance même au cours de certaines manifs.
Oui.
Avec également des espaces en mixité choisie. Oui. Et on peut dire que là, notamment dans le mouvement Prenons la ville, on peut dire que ça a eu un chouette succès et une cohabitation tout à fait intéressante et bienveillante, je veux dire.
Oui, après, je sais pas, il y a toujours, on peut toujours critiquer, puis personne.
Tout à fait.
Mais moi, je trouve que c'est une super initiative, en fait, déjà avant même que la fête ait lieu, de penser en fait à la possibilité qu'il y ait des relous et que justement en fait, de protéger en fait les personnes, mais avec leur accord. Et c'est, bon, après c'est selon les différentes teams, mais dans les teams dans lesquelles je suis allée, ben il y avait vraiment en fait cette idée de ben nous on est là pour veiller à la bienveillance, mais on va tout faire avec la personne. C'est-à-dire que si en fait la personne elle a envie de elle genre parler avec cette personne relou, et ben en fait elle va parler avec cette personne relou. D'accord. Et puis on va voir, mais si elle a envie de pas du tout communiquer, et ben on va séparer cette personne. Si ouais. Et de en fait faire selon ce que la victime veut, et pas en fait s'imposer, dire on est là pour te protéger. Et puis
d'accord, ouais, ouais, il y a vraiment l'idée du dialogue constant, et puis de trouver une, enfin de trouver la parade ensemble et de l'appliquer vraiment ensemble.
Exactement. J'ai compris, ouais. De s'adapter en fait à chaque situation.
Ouais. Selon toi, est-ce que les lieux en font assez ou les lieux en font pas du tout? Quand je dis lieux, je pense bon, on pourrait parler de tous les lieux, hein, une discothèque normale, si, enfin moi j'y vais pas, mais
ou moi non plus.
Voilà. En tout cas, les lieux qu'on fréquente, mais même les lieux alternatifs ou quoi, et ou des lieux insolites. Est-ce que selon toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui apparaît et qui est fait, ou justement on est encore loin du compte et il faut vraiment, il y a du boulot?
Ben, moi je sais pas, ça dépend des lieux. Moi je trouve ça assez drôle parce que il y a plein de lieux un peu, ou des lieux alternatifs ou des lieux de sortie où moi je vais, ou que je vois un peu placardé partout maintenant, genre ah, ce lieu est contre ça mmh. Et que du coup on lutte contre plein de choses, et puis t'es genre oui ben c'est joli, mais vous, concrètement vous faites quoi, genre, ouais. Et puis ouais, il y a plein de lieux que je sais qu'il se passe des trucs genre pas forcément cool, et puis qu'en fait ben il y a quand même cette affiche qui dit que, tu vois.
Ouais. Donc voilà, en fait on peut voir qu'il y a un phare comme ça qui se craquelle assez vite si on va un petit peu plus loin.
Ouais. Mais j'ai l'impression que dans mon environnement proche quand même, genre dans les assos où je suis, et ben il y a quand même un méga effort qui est fait, il y a vraiment plein de gens qui se bougent et qui font un travail bénévole incroyable sur ça, et qui veillent à ce que en fait les fêtes elles se passent bien.
Ok. Je voulais après te poser un peu la même question concernant le travail ou des trucs comme ça, ou y a-t-il selon toi des lieux qui sont qui craignent vraiment plus que d'autres, ou vraiment là on sait que très probablement il peut se passer des choses et que c'est vraiment compliqué parce que là-dedans il faudrait vraiment aller nettoyer quoi.
Oui, évidemment, il y a plein d'endroits qui craignent de ouf, mais je sais pas. Bon, moi, j'ai pour la plupart la chance de pas y aller, mais je sais que ben en fait, il y a plein de gens qui traînent pas forcément dans le milieu alternatif, et puis que si tu sors en discothèque ou genre si tu sors de manière générale, en fait, que ce soit dans des lieux prévus pour, ou même en fait dans la soirée de ton pote, ben en fait, il y a pas forcément de quoi te protéger, mis à part toi-même ou genre d'autres potes si t'as de la chance, tu vois.
Ouais, tout à fait. Je pensais typiquement, tu vois, des fois le rapport de travail donne cet alibi, permet cet alibi-là également de rapport de domination, tu vois. Alors même dans les lieux alternaux, dès lors que t'as un rapport assujetti, une fonction, enfin, un rapport de travail et donc de domination, bah, du coup, il se passe des fois des choses qui sont effectivement funestes. Voilà. Ok, pour toi, comment tu sens quand tu te balades à Genève comme ça, de manière complètement anonyme, enfin voilà, comme une personne normale, comment est-ce que tu observes la situation dans laquelle on est? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même, il faut le dire, on est quand même assiégé par des affiches, par de la propagande qui est effectivement très souvent sexiste. Voilà, on a des gens qui des fois travaillent sur eux-mêmes. Est-ce qu'on voit le fruit du travail de la slut walk, le fruit du travail des personnes sur elles-mêmes? Est-ce qu'on observe que chez les plus jeunes, eh ben, heureusement, on sent que c'est bon, ça passe, et puis qu'on va dépasser ça ou pas? Ou est-ce qu'on est plus dans des moments de régression? Voilà. Comment est-ce que toi, imprégné de la vie de tous les jours, comment est-ce que tu sens les choses?
C'est une question assez large, mais... ça dépend. Bon, depuis que je suis féministe, depuis que en fait je suis engagée de façon militante en tant que féministe, j'ai un peu des antennes. Et puis que du coup, quand je sors, et ben, en fait, je check à fond. Moi, je trouve ça trop drôle parce qu'il y a plein de fois où je sors avec d'autres mecs ici et puis qu'ils sont là. Ah, oh, mais la soirée, elle était trop bien. Et puis, genre, il y a tout qui s'est bien passé et tout. Et moi, je suis genre, il y a plein de meufs qui se sont fait grave emmerder. Genre, genre, et que moi, j'ai vu plein de choses qu'en fait,
que eux
ne peuvent enlevé. Pas voir parce qu'ils n'ont pas.
Ils ne volent pas.
Je sais pas. Je sais pas leur demander. Voilà. Mais ouais, il y a aussi qu'ils veulent pas voir, mais je sais pas, même certains qui étaient un peu alertes, ils se sont dit ah mais ça va, en fait il y a pas trop de relou, et puis des gens mais en fait si, il y en a quand même, et puis c'est quand même c'est quand même vachement présent, et puis voilà.
Ok, donc il reste beaucoup à faire quand même. Oui. On peut dire certainement. Ok. Alors justement, toi, quels sont les prochains projets de ce point de vue-là pour toi? La Sautour, c'est quelque chose que tu vas tenir, que tu vas, dans laquelle tu t'es engagé. Y a-t-il d'autres formes de résistance ou d'autres formes de lutte, selon toi, qui sont à disposition de tout le monde et...
Moi, je suis hyper engagée au niveau de la Sautour, et puis en fait, j'aime trop les gens de la Sautour, du coup, forcément, je vais rester. Mais déjà, je ne fais plus partie du comité parce que je fais aussi partie de Outrage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a fait un festival il n'y a pas si longtemps.
Par la poney, là.
Ouais. Et du coup, pour moi, c'est hyper important. Et puis, je vois que en fait, la question antiraciste, elle devient hyper importante pour moi. Puis du coup, c'est un truc dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir. Et j'ai vraiment envie de lutter à fond là-dedans. Après, je sais pas encore comment et... quoi, etc. Mais je sais qu'il y a des trucs à faire et puis ça me motive à fond.
D'accord.
Et puis, pour moi, c'est une question hyper importante. Et puis que, de nouveau, cette question d'intersectionnalité, elle est hyper présente parce que, je suis vue comme une meuf noire.
Ouais, ouais.
Et puis, voilà.
D'accord. Dis-moi, on va arriver doucement au terme de l'entretien, mais je voulais savoir comment est-ce que tu observes les prises de position des médias? Parce qu'on a parlé des affiches, on a parlé de beaucoup de choses, des gens dans la rue, des fêtes, du lieu de travail, mais on peut dire que les médias de masse notamment portent quand même, selon nous, une part de responsabilité. Par ailleurs, il faut savoir que nous avons notamment reçu Décadré, qui est une association qui justement va au devant des médias pour leur dire attention à la manière dont vous traitez une information, parce que là, on voit clairement qu'il y a un souci. On a parlé à différentes entités, justement, dont on sentait qu'il y avait ce regard, disons, un petit peu pour le moins critique, et puis, voilà, sur certains médias, notamment la presse, avec des... Tu sais, avec des manchettes souvent dures, avec tout un champ sémantique où, par exemple, l'amoureux était toujours éconduit. Et c'est pour ça que... mais amoureux quand même, et donc on justifiait un acte malveillant, etc. En tout cas, un déséquilibre clair, quoi. Et puis, du coup, ça me permet aussi de saluer les personnes de Crépidule qui font un podcast, une voix féministe en podcast radio, qui sont des personnes absolument... Voilà, qui touchent à ce genre de problématiques-là. Mais alors... Quelle est ta position ou comment observes-tu le rôle des médias et des médias de masse, que ce soit la presse écrite ou la télé?
Déjà, j'ai envie de dire la presse, ils n'ont pas de chance parce que la langue, elle est sexiste. Du coup, déjà, ils commencent pas avec un avantage. Ils ont déjà un truc... parce qu'il y a plein de fois, et puis même en fait dans le langage, on dit plein de trucs qui sont hyper sexistes, et puis on s'en rend pas forcément compte. Et puis, je sais pas, oui. Moi, j'aime bien les médias, mais j'ai quand même vachement un peu de recul par rapport à ça, parce que tu peux un peu dire tout et n'importe quoi, et puis que c'est difficile aussi de discuter avec les médias et puis de leur dire, mais en fait, à ce moment-là, vous parlez d'une personne de cette façon-là, et puis en fait, c'est pas OK. Et puis, enfin... C'est un peu difficile, oui, mais en fait, c'est mon point de vue. Et puis, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des rapports hyper difficiles avec les médias parce que il n'y a pas forcément de dialogue, en fait.
Ouais, d'accord.
Et qui permet aussi de changer en fait, tout ce discours qui ne va pas forcément.
Ouais, absolument. Tu parlais du langage, effectivement. Alors, on recommande d'utiliser le langage inclusif.
Oui.
Et puis, c'est pour le moins, mais plutôt inclusif.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est parmi les outils dont tu penses qu'ils peuvent nous aider à sortir un petit peu de l'ornière et puis à dire on va essayer d'infléchir ce qui nous entoure.
Moi, je vois le langage inclusif ou EpiCen comme comme un peu une visibilisation, pas comme un outil qui va changer quoi que ce soit, parce qu'en fait, ben, c'est dans les structures grammaticales, c'est dans en fait, la syntaxe, dans les expressions qu'on utilise, qu'on peut remarquer que c'est sexiste aussi. Mais oui, mais en fait, c'est toujours bien d'être inclusif, parce que en fait, quand moi je lis des trucs inclusifs ou quand je vois des événements avec de l'écriture inclusive, je me dis, ah, déjà, au moins ça.
Ouais, au moins ça, absolument. Ok, ben du coup, ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais on va s'y atteler à faire tout ça. Justement, alors, et j'en terminerai avec ceci, à moins qu'une question surgisse. Voilà. Voilà, selon toi, voilà, si là on pouvait demain changer un truc vite fait, là, on arrive en 2019, tout ça, c'est quoi les premières choses sur lesquelles vraiment il faut que ça bouge vite, quoi, selon toi ? Je ne veux pas hiérarchiser, mais je me dis, il y a peut-être un truc comme ça qui te touche particulièrement et que tu dis, ouais, ça vraiment, si on pouvait en sortir, mais par un coup de baguette magique, voilà, il faut le faire maintenant, quoi. C'est un peu tout.
Franchement, j'ai trop de trucs.
Non, mais ouais, mais c'est ce qu'on disait. C'est que le problème d'une culture, c'est que, comme tu as dit, on en est imprégné. Ça la difficulté, c'est que finalement, tous nos pores sont touchés par ceci. Et c'est effectivement assez difficile de faire ce pas-là, d'être... Mais voilà, on peut peut-être encourager les gens à faire des autocritiques, tout simplement, à se dire, mais regardons-nous pour de vrai, et puis essayons de nous mettre l'empathie. C'est peut-être quelque chose qui peut nous aider. Mettons-nous un peu à la place de la personne, pensons un peu à sa place, avec ce qu'on arrive à faire, tu vois. Mais je sais pas, vas-y.
Le pensons à sa place,
Non, pas bien. Non, mais pas le pensons à sa place, mais... C'est pas ça que je veux dire, c'est imaginons-nous, tu vois, être touché par ce genre de choses. Je sais pas, l'autre jour on parlait avec une personne et on se disait, voilà, si dans une rue mal éclairée la nuit, la personne qui croise la personne se visibilisait plus, ou, tu vois, ou, enfin, comment dire, annonçait d'une certaine manière ses intentions...
malveillante.
Non, le contraire.
Je veux t'agir.
Non, mais renoncer à des attitudes dont elle sait qu'elles peuvent être interprétées. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais c'est pas l'interprétation. Moi, je peux grave flipper et puis qu'en fait, il se passe rien. Et puis, en fait, tant mieux qu'il se passe rien. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, en fait, c'est le moment où, déjà, de base, en fait, je flippe. Et puis, de base, en fait, je me dis, mais cette personne, en fait, elle peut m'agresser parce que je sais pas ce qu'il fait. Ce qui fait que, en fait, un tel, il va m'agresser et un tel, il va pas m'agresser. Ouais, et s'il y a un truc dont il faudrait qu'on se débarrasse, en fait, c'est déjà, en fait, je dirais des violences. Peut-être que... Ouais, s'il y avait un truc magique dont on pourrait, c'est genre d'enlever les violences sexistes et sexuelles.
Mmh. Ouais. Non, absolument, non, tout à fait. Écoute, je te remercie en tout cas beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous dire toutes ces choses-là.
Ben, merci de m'avoir invité.
Avec beaucoup de plaisir. Dis-moi, on va peut-être encore dire que donc, la marche de la Soulfolk n'est pas encore annoncée pour l'année prochaine, mais que ça viendra.
Autour du mois de juin, je pense. Ouais, comme d'hab.
Comme d'hab, voilà, exactement. Et que des informations, elles pourront être trouvées sur la page, notamment Facebook.
Sur notre page Facebook, Soulfolk Suisse, et sur notre page Instagram.
Super. Titi, merci beaucoup. Bonne continuation à toi.
Merci.
Et à bientôt. Ciao.
Libre Radio, la radio qui n'en finit pas. www.libradio.org.
Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin.
Mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.